Bonjour, je suis Christiane Cavaline de Châteauneuf-sur-Cher. Nicolas Sarkozy, président des Français, a débuté son quinquennat avec une certaine arrogance. De son voyage aux États-Unis en passant par son séjour bolloréen à Malte, pour finir provisoirement avec son séjour toujours bolloréen de Noël en Égypte, il cumule les conflits d'intérêts entre le pouvoir et l'argent. Un haut fonctionnaire d'État semble pouvoir en toute impunité profiter de sa position de pouvoir pour jouir des bienfaits de l'argent privé. De l'autre côté, un chef d'entreprise, milliardaire, semble pouvoir en toute impunité acheter plus ou moins discrètement les services du plus haut fonctionnaire français pour faire valoir à plus ou moins long terme ses intérêts privés. Dans une autre démocratie assez proche, la Suède, et en des temps récents, une ministre, Mona Sahlin, avait été accusée de corruption et amenée à démissionner pour avoir acheté avec une carte du gouvernement social-démocrate un Toblerone dans un aéroport. Elle a de sa propre initiative pris un an de vacances pour se faire oublier avant de revenir en force à la présidence du Parti social-démocrate à la suite de Göran Persson, ex-premier ministre. Entre les deux affaires, un océan conceptuel quant à la notion de corruption et des pratiques à cet égard plutôt différentes. L'ex-président Chirac et avant lui l'ex-président Giscard nous avaient habitués à certains dépassements assez franco-français qui semblaient faire rigoler le bon peuple de si aimables plaisanteries. Mais Nicolas Sarkozy, lui, franchit allègrement et en un temps record les bornes du bon goût. Là-dessus, quelques remarques ironiques de certaines chaînes de radio ou de télévision, des commentaires plus ou moins aimables de certains politiques de gauche, et rien encore à l'horizon en ce qui concerne une initiative claire qui consisterait à intenter contre lui une action juridique pour corruption. Mesdames et messieurs Bayrou, Royal, Buffet, Ladillier, Besancenot, Beauvais, etc., mesdames et messieurs les juges et procureurs, qu'attendez-vous pour réagir ?
Eh bien, bonjour, Daniel. Je suis Marie-Christine H. À Beaumont-les-Hôtels, un petit village du Perche. Je t'avais déjà téléphoné au mois de septembre, car j'avais des problèmes pour mon filleul tunisien qui est sans papier. Et donc, là, j'ai attaqué une grève de la faim depuis jeudi soir, 20 décembre. Car la préfecture lui refuse toujours ses papiers alors qu'il a un passeport valide, il a une résidence, il parle français et qu'il a un travail. Et un travail à Beaumont-les-Hôtels, dans ce petit village perdu et dans une zone plutôt sinistrée. Et voilà, il est aimé de tout le monde, c'est un vrai rayon de soleil et puis... Et puis, c'est toujours le refus. C'est toujours le refus. Ma grève de la faim, j'ai décidé que, sans titre de séjour, moi, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'entourent, mais c'est quand même très dur. C'est quand même très dur d'en arriver là. Voilà.
Alors je suis à nouveau votre reportage sur Mayotte et me pose à nouveau la question que vous m'avez posée il y a 2 ans. Quelle est la solution? Vous n'en proposez aucune. L'alternative, c'est Mayotte rejoint les Comores, comme semble le souhaiter l'ONU, mais les Mahorais ne veulent pas cette solution car ils préfèrent vivre du RMI et avoir la CMU. Ou bien les Comores rejoignent la communauté départementale. Comme l'ont souhaité, je crois, me souvenir les Anjouanais il y a quelques temps ou il y a quelques années. Mais ce serait un retour en arrière inacceptable vers le régime colonial. Et vous pensez que les Français le souhaitent? Certainement pas. Je suis persuadé que les Français ne le souhaitent pas non plus. Donc, vous oubliez de mentionner que certains des Mahorais qui donnent 100 euros par mois à des Anjouanais pour faire le jardin ou le ménage vivent eux-mêmes avec un ou plusieurs RMI dans leur ménage. Alors, qu'est-ce que vous proposez? J'aimerais avoir quelque chose de positif dans cette émission. C'est un reportage, d'accord? Vous êtes objectif, certainement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu de recul et essayer d'analyser la situation et de... Quel est l'avenir? Ok, merci.
Comment vas-tu? Il y a longtemps que je ne t'avais pas écrit ou écouté. Alors, je t'appelle pour Mayotte. Ce que tu voudrais dire, la vérité, c'est l'échec des indépendances. Pourquoi tous les Mahorais veulent-ils venir à Mayotte? Tous les Comoriens, pardon, veulent-ils venir à Mayotte? Parce qu'ils ont loupé leur indépendance. Et ça, tu n'y peux rien. Le peuple a compris que c'était auprès de la France qu'ils étaient mieux. Alors tu peux nous raconter toutes tes conneries, ça ne changera rien. les colonies indépendantes ont tout gâché en tout. Et dans le monde, regarde la Rhodésie, l'ex-Rhodésie, le Zimbabwe, c'est un pays anarchique, complètement ruiné, et ça va faire la même chose en Afrique du Sud. Alors, à mon avis, moi, il aurait fallu les coloniser encore pendant 300 ans, et ça serait sorti.
Bonjour à Daniel, à toute l'équipe et aux auditeurs, notamment à ceux de la région parisienne. C'est un message d'urgence depuis Rennes où Salim, un jeune malgache, vient d'être extrait du centre de rétention administrative en toute discrétion pour que personne ne puisse l'aider, que personne ne puisse le soutenir. On a du mal à retrouver sa trace. Il n'a téléphoné à personne, ni à son frère, ni à sa sœur qui vivent pourtant en France, ni à ses amis qui étaient prêts à le soutenir. Et nous sommes mercredi 26 et son avion est prévu pour demain. Mais attention, ce n'est pas un avion pour Madagascar, c'est un avion pour les Comores, parce que les Comores l'ont reconnu. Il va donc être expulsé vers les Comores. Et il sera donc normalement dans un vol pour Moroni. On s'est renseigné, il y a un vol Air France à 17h depuis Charles de Gaulle. Et il serait bien que des personnes puissent se rendre à l'aéroport et prévenir les passagers que sur leur vol, on expulse un homme. Et qu'ils ont le droit et même le devoir de ne pas le tolérer. Quand nous en saurons plus, nous l'indiquerons sur notre blog qui concerne le CRA, le Centre de Rétention Administrative de Rennes, et qui s'appelle Sans Patrie. Et si on a des informations complémentaires, on vous les donnera. Si vous pouvez faire quelque chose, bougez. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Ben, c'était Nathalie et Carole de Rennes.
Eh bien, quelqu'un arrivera-t-il à temps avant 17h sur ce vol qui part pour Moroni? J'en sais rien, je le souhaite en tout cas. En tout cas, nous partons pour Moroni, enfin, c'est-à-dire les Comores, et Mayotte à nouveau aujourd'hui avec tous les amis de là-bas, si j'y suis, tous les AMG auditeurs modestes et géniaux que vous êtes, et qui ne laissaient aucune trêve, pas de vacances pour le répondeur de là-bas, si j'y suis. On se dit, oh, bah, il y aura peut-être qu'un, mais non, c'est fou, vous en profitez, vous avez bien raison, merci à tous. Donc, eh bien, aujourd'hui, Mayotte, les Comores. Une chose, hier, on a parlé de cette inquiétude qui commence à vous gagner concernant, et qui nous gagne aussi, nous beaucoup en tout cas, sur le risque, la menace de publicité, de voir des publicités de marques arriver sur les antennes de Radio France. Sachez qu'il existe une pétition qui est disponible et qui vient d'être mise en ligne par les syndicats de Radio France et que vous pouvez trouver en cherchant assez de pub@yahoo.fr. C'est une des possibilités, sinon en tapotant un peu sur votre ordinateur, vous allez trouver la façon de trouver cette pétition. Je serai un peu plus précis, j'espère demain. Je suis assez loin de Paris, mais dès que j'ai des précisions, je vous les donne. En tous les cas, dès maintenant, vous pouvez taper assez de pub@yahoo.fr. Donc, départ pour les Comores. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir. Je suis en train d'écouter votre émission sur Mayotte. C'est bien joli, mais Monsieur Mermet, animateur, pourquoi il ne vient pas, il ne reste pas en France à cette époque-là? Il fait quand même un peu meilleur en France. Alors, il s'occupe un peu de ce qu'il y a en France avant d'aller ailleurs. Je veux pas être méchant, mais il y a des limites. Hein. Merci.
Oui, bonsoir, là-bas si j'y suis. Merci de rediffuser l'émission sur Mayotte, les émissions sur Mayotte. En tout cas, vu que les journaux de France Inter ne font pas leur boulot, je vous passe un extrait de ce que je viens d'entendre sur RFI à propos des sans-papiers de Ménilamlo.
Une centaine de sans-papiers protestent depuis ce week-end contre leurs conditions d'arrestation et de détention au centre du Ménil-Amelot, dans la banlieue parisienne près de l'aéroport de Roissy. En majorité d'origine africaine, ils manifestent pacifiquement dans le centre en écrivant des slogans sur des petits bouts de papier accrochés à leurs vêtements. L'un de ces sans-papiers, Abou Ninyanor, s'est improvisé porte-parole de ce mouvement de protestation spontanée. Il a été joint au téléphone par Virginie Salançon.
Ce qui a provoqué cette grogne, c'est que tous ceux qui se retrouvent ici ont été presque arrêtés de la même manière. C'est-à-dire qu'on te convoque à la préfecture ou bien à la mairie, on te demande de venir, on va te délivrer tes papiers. Là, tu es pris et voilà, ce sont des pièges qu'on tend maintenant aux individus pour les mettre en centre de détention. C'est une chasse à l'homme qui se fait dans le pays actuellement. En plus, les conditions de détention sont des conditions qui ne sont pas du tout viables, qui ne sont pas considérées comme étant des êtres humains. Les fouilles, les visites, tout ce qui se fait, c'est de manière vraiment inhumaine et humiliante. Nous n'avons que des numéros, nous n'avons pas de nom. On a des numéros. Donc nous voulons que la population française soit au courant de ce qui se passe. Ce qui est en train de se faire ici, c'est uniquement pour réaliser les chiffres qui ont été déjà dits. On sait que d'ici la fin de l'année, il faut faire rapatrier 25 000 personnes. Donc c'est ça, c'est la politique du chiffre. Nous condamnons cette politique-là.
Voilà, pendant que monsieur fait le malin en Égypte. No comment. Allez, ciao. Par mesure de confidentialité, je ne vous dis pas mon prénom, mais vous m'avez reconnu. Passez le message, je vous en supplie, ou un extrait. Merci. Ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, Mayotte, un confetti explosif.
Tout dépend comment on cadre le paysage, parce que si on regarde là, on a la barrière de corail, la mer est d'un bleu absolument fabuleux. Là, on a des palmiers, là, on a... C'est vraiment des paysages extraordinaires, là, le sable fin en bas, quelques arbres sur la plage, quelques pirogues à balancier, là-bas, avec les vagues blanches là, qui se cassent sur la barrière de corail. Sauf que c'est de là que partent les gens de cette région-là, d'Anjouan. Vers Mayotte. Mayotte, c'est là-bas. Hein.
Oui, Mayotte, c'est là-bas. Ici, bon, à partir d'ici, tu vois, on peut voir l'île de Moëlie.
Ouais, là-bas.
Et le soir, d'ici, parce que là, on est à 80 km
de Mayotte,
on voit la lumière. On voit les lumières de Sada. Ouais,
ouais. C'est ça qui
Donc, les gens qui habitent ici se sentent plus proches de Mayotte. Ils se disent, écoutez, mais c'est à côté. Et là-bas, il y a la belle vie. Pourquoi je reste ici dans la misère?
Surtout qu'il y a un lien historique, hein. Voilà. Il y a un lien ancien, il y a un lien culturel, il y a un lien de langue, il y a tout ce qu'on veut. C'est pas des pays étrangers, hein. Et donc, voilà, toute la misère est là, toute la tristesse est là. Et là, en contrebas, il y a deux tombes.
En fait, c'est pas deux tombes, parce que vous voyez de l'autre côté là-bas, il y a une barque orange. Ça, c'était une barque qui avait transporté 30 personnes. Bon, mais il y avait plus, parce qu'il y avait aussi du bétail et tout ça. Ils venaient du côté sud de l'île. Mais ils ont été surpris justement par cette barrière, parce que le gars qui avait amené le bateau, il connaissait pas très bien la région. La mer était montée, ils ont voulu rentrer sur la plage. Et là, la vedette a échoué. Et les 30 personnes sont mortes. Donc là, au moins, il y a au moins 30 tombes. Pour vous dire que bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais bon, maintenant les traces s'effacent parce qu'avec la pluie, il n'y a pas d'entretien. Ouais. Donc les traces s'effacent.
C'était quand ça, tu sais?
Bon, ça date de l'année dernière. Mais là-bas, on m'a raconté qu'il y a au moins une cinquantaine de personnes qu'on a enterrées. Ici et là. Donc c'est pourquoi justement, des fois, les villageois ici disent ça c'est la cimetière anonyme. Parce que les gens qui sont enterrés, on ne les connaît pas. C'était des personnes qu'on n'a pas identifiées. Mais ceux qu'on a identifiés, ceux qui sont du village, on les enterre au cimetière du village. Mais ce qu'on a enterré ici, bon, c'est des anonymes, quoi. On ne les connaît pas, quoi. C'est des inconnus.
Alors, tu crois que ça part toujours, les bateaux partent toujours d'ici? Les Kwasa Kwasa partent toujours?
Chiroroni reste le grand port clandestin.
C'est-à-dire ici.
Ici, en jouant. Officiellement, on dit, voilà, vous partez pas, mais chaque jour, il y a des départs et chaque jour a son lot de morts.
Qui le sait que ça se passe comme ça entre les Comores et Mayotte, c'est-à-dire la France. C'est mort, les gens des Comores les appellent les morts baladurs. Est-ce que monsieur Baladur sait que il y a un endroit de cette planète où les noyés dans ces embarcations de fortune, ces migrants clandestins qui meurent s'appellent des morts baladurs. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que ce qu'on appelle ici le visa Baladur, ben c'est une condamnation à mort? C'est terrible, non? Je ne sais pas s'il l'ignore, mais en tout cas, on l'ignore, les Français de métropole l'ignorent, mais en tout cas pas dans le coin, ni à Mayotte, ni dans les Comores. Ce visa a été imposé en 1995 par le gouvernement de Monsieur Baladur, dans une cohabitation à l'époque, et pour essayer de limiter l'immigration de l'Union des Comores vers le confetti, ce confetti de Mayotte. Il y a des auditeurs qui me disent, mais attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que Mayotte, c'est 374 km², mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, c'est ça, la taille de Mayotte, c'est 374 km², vraiment un tout petit confetti, 160 000 habitants, selon les chiffres sont très variables et très très tordus dans un sens ou dans l'autre, selon les opinions des uns et des autres. Mais enfin, voilà, le chiffre le plus couramment admis, c'est 160 000 habitants, dont 12 000 étrangers en situation régulière et environ 55 000 clandestins venus, et ça c'est ce qui est énorme évidemment, venus essentiellement des Comores, de Madagascar et d'Afrique continentale, mais enfin essentiellement des Comores. Un taux de chômage entre 30 et 50%, là non plus, on ne sait pas, c'est l'apanage dramatique des pays pauvres ou en développement, comme on dit pudiquement, que de ne pas avoir de chiffres fiables, de ne pas avoir de statistiques précises. J'ai essayé de faire comprendre ce que j'ai compris un peu sur l'histoire de ces, ce que nous avons compris sur l'histoire de ces Comores, ce qui était une colonie française jusqu'en 1975, jusqu'à ce fameux référendum de 1975 où il y a eu un phénomène assez étonnant et surtout très ignoré des Français de métropole. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que les clandestins que nous évoquons là ne franchissent en fait aucune frontière aux yeux du droit international et aux yeux des Nations Unies. Le 12 novembre 1975, l'archipel des Comores, composé des quatre îles de Grande Comore, Gazidja, Anjouan, Moélie et Mayotte, était admis à l'ONU comme un État nouvellement indépendant. Ça, c'est le point de vue des Nations Unies. Mais la France considère, et aux yeux du droit international, viole les règles internationales. La France considère que Mayotte, qui a majoritairement choisi de rester dans le giron français, passe sous contrôle français. Et la France maintient son drapeau et ses fonctionnaires à Mayotte en s'appuyant sur une volonté des Mahorais, donc à travers ces référendums. Et depuis, bien les Mahorais ont régulièrement confirmé leur désir de rester dans le giron français. Évidemment, c'est un désir qui est peut-être bien intéressé, qui n'est pas aussi patriotique qu'on pourrait le supposer. Depuis, la France a été condamnée régulièrement par les résolutions des Nations Unies, plus d'une vingtaine de fois, et cette situation reste illégale. Mais il y a une situation de fait. Alors, il y a l'illégalité vis-à-vis du droit international, et puis il y a la force de l'évidence qui fait que aujourd'hui, les Mahorais n'ont plus envie d'indépendance, mais il y a ce différentiel social, ce fracas rupture sociale entre cette petite île et puis les trois autres îles qui sont guère plus grandes. Différentiel si important qu'évidemment les habitants des Comores passent leur temps à venir, d'aller vers cette lumière, vers cette lueur, vers cet Eldorado qu'est Mayotte. Et aujourd'hui, eh bien, le gouvernement français trouve que c'est trop, que qu'il faut reconduire ces clandestins, ces sans-papiers, mais c'est des opérations, on les a évoquées, très difficiles, quasiment impossibles, pour des raisons évidentes. Donc là, on est non loin de Moutsamoudou, on est à Anjouan, et on est sur l'une des côtes d'Anjouan, d'où effectivement partent beaucoup de ces sans-papiers, on les appelait comme ça, de ces Anjouanais vers Mayotte sur ces embarcations de fortune qu'on appelle des Kwassa-Kwassa. On en a parlé hier. C'est des paysages effectivement très à la fois très beaux, mais quand on commence à savoir lire un peu ces paysages, on voit bien que c'est très desséché, que c'est très âpre et que la pauvreté y est très grande. C'est dans un petit village qui s'appelle Sadampouani qu'on va passer une partie de cette heure dans Là-bas si j'y suis sur France Inter, Mayotte, un confetti explosif.
Il y a tout un tas de fillettes avec des sacs de sable sur la tête. Tu sais que c'est lourd, ça, le sable.
Ah oui, ça fait à peu près 15 kilos.
Voilà. Elles ont 10 ans, 12 ans. Uh-huh. Elles se prennent 15 kilos sur la tête. Elles remontent le sable de la plage. Uh-huh. Et puis, elles font des tas en haut.
Oui, ils font des tas en haut. Et puis, il y a des camions qui viennent des autres villages et qui viennent même de Domoni pour acheter ce sable. Bon, ça, c'est toute une famille. C'est des familles qui font ça.
C'est les seules ressources qu'il y a.
C'est leur seule ressource. Bon, puisque vous voyez que la terre ne produit plus rien. Donc pour eux, ramasser du sable, c'est une source de revenus. Aujourd'hui, on commence à enlever le sable. Vous voyez les trous béantes là-bas sur la plage.
Oui.
Et d'ici peu, il n'y aura plus de plage. Et ça, c'était la grande plage au sable blanc d'Anjouan. Maintenant, ça se referme. Et voilà les cailloux, les roches qui montent.
Oui, tout à
donc,
fait.
Cette plage a perdu son charme.
Avec toutes ces petites fourmis qui remontent, voilà. Tous ces gamins qui remontent,
voilà.
du sable qui va ailleurs. Parce que le problème ici pour le tourisme, c'est que c'est très souvent des plages de sable noir, c'est-à-dire des plages volcaniques, on va dire. Et ça n'attire pas trop le touriste. Il aime bien le sable blond et blanc. Il faut qu'il ait son décor comme sur le dépliant de voyage. Et sinon, ça ne va pas.
Et voilà, les enfants qu'on vient de voir remonter avec leur sac de sable sur la tête, redescendent, ils redescendent tous, ils sont une dizaine. Voilà, c'est souvent des fillettes d'une dizaine d'années, 10, 12 ans, avec les petits garçons qui descendent avec leur sac, et puis qui remontent, et puis qui redescendent, et comme ça toute la journée. C'est très, très abrupt, hein. Nous, on hésite à descendre. Hein. Les mômes font ça toute la journée. Et là-bas, il y a un arbre sur la plage avec des gars qui discutent à l'ombre, avec des barques à balancier. Puis là-bas, sous d'autres arbres, sous les palmiers, il y a un grand... ils appellent ça des quassa-quassa. Enfin, grand, c'est beaucoup dire. Des barques qui peuvent tenir 20, 30 personnes avec des bagages et puis tenter l'aventure de la traverser jusqu'à Mayotte, c'est-à-dire jusqu'au paradis français.
Et l'histoire terrible qu'on raconte sur ces traversées, sur ces quassa-quassa, sur ces cercueils flottants, c'est l'histoire d'une femme qui hurlait de douleur à bord d'un de ces bateaux quand les gendarmes se sont approchés, les gens de la police de l'air et des frontières, parce que une femme hurlait parce que le passeur qui était à bord, enfin le pilote, celui qui conduisait qui pilotait ce quoi ça, avait jeté l'enfant de la femme à la mer parce que le môme braillait. Et pour pas se faire repérer par la police, le gars avait jeté cet enfant à la mer. Ça donne une petite idée de la cruauté, du désarroi, voilà. Le mot est faible de ces populations. Tout vouloir régler par la loi, par la répression, par les radars, par les GPS, on pourra multiplier les forces de l'ordre et les reconduites. Il suffit d'ailleurs de parler 5 minutes avec justement les gens de la police de l'air et des frontières, les gendarmes et tout. Dès qu'on parle off, ils savent très bien que ce sont des mesures inutiles qu'on n'arrivera jamais. Ils vous disent tout de suite, mais ça revient à vider la mer avec une petite cuillère. Ils le savent, mais ils le font parce que c'est leur boulot, évidemment. Et c'est toujours off. Toutes ces choses-là se disent. Donc on est dans ce village de Sadan Poigny. On croise des colonnes de personnes qui ont l'air un petit peu déplacées dans ce paysage, qui ont le visage assez sombre, assez hostile pour tout dire, qui n'ont pas tellement envie de nous parler, et qui sont habillées très très proprement, impeccables, et qui se faufilent comme ça dans le paysage et qui descendent vers la plage. Et bien ce sont ceux qui vont partir, qui vont s'embarquer. Et pourquoi sont-ils bien habillés, comme ça, habillés beaux? Et bien c'est quand on arrivera, se disent-ils, à Mayotte, on sera pas repéré. Si on arrive en haillons, on est sûr qu'on est tout de suite ramassé parce qu'on est des enjouanés. Donc il faut s'habiller proprement, beau, pour passer inaperçu. Voilà, c'est ça l'idée qu'on se fait de la prospérité de Mayotte. Pour savoir aussi les raisons pour lesquelles les gens partent, et ben voilà, on est autour de cette fontaine. Enfin fontaine, c'est beaucoup dire, vous allez voir, sous d'énormes manguiers, là des femmes attendent et parlent. Alors là, on est dans un coin du village. Comment s'appelle le village?
Sadan Poigny.
Il fait très très chaud, hein, et pas seulement aujourd'hui, c'est une région très chaude, c'est la partie sud de l'île, et c'est très dur, c'est le climat le plus dur. Et là, en face de nous, il y a des femmes qui sont autour d'un robinet, un malheureux robinet, mais enfin, c'est quand même un robinet, et elles attendent que leurs bidons se remplissent. Elles ont amené des gros bidons jaunes, elles rigolent aussi, parce que c'est un endroit, évidemment, de rencontre, où on rigole, où on se raconte des histoires, où on fait la coiffure aussi. Là, on est en train de coiffer des femmes, des jeunes filles. Et puis là, c'est vendredi, donc c'est le jour de repos. Ça correspond au dimanche. Mais enfin, la corvée de l'eau, c'est au moins une journée, hein, d'aller et venir. Mais là, on a rencontré un monsieur qui revient de la pêche. Il a ramené 3-4 poissons. et puis ils ramènent. Je ne sais pas ce que c'est ces herbes là qu'ils ramènent.
Ici au village, il n'y a pas de quoi nourrir le bétail. Donc nous, on va très loin pour chercher ça, juste pour nourrir le bétail.
Comment vous vous appelez?
Ahmed Ibrahim.
J'ai 15 enfants.
15 enfants?
Que j'arrive même pas à subvenir. C'est pour cette raison justement que pas mal de gens partent à Mayotte pour aller travailler et gagner leur vie. Peut-être ils reviendront au village et la vie changera.
Il y en a beaucoup du village ici qui sont partis à Mayotte?
Ça, c'est le sport national. Tout en juin est à Mayotte.
Vous avez des amis qui sont partis là-bas? Des frères, des sœurs?
Elle est morte là parce qu'elle voulait aller à Mayotte chercher la belle vie, ma sœur.
Quand ça?
C'était l'année dernière.
Comment ça s'est passé?
C'est la vedette qui a chaviré parce que la mer était mauvaise.
Ils étaient combien à bord?
Tu ne peux pas savoir parce que des fois ils vont à 20, à 30. Tu ne peux pas savoir.
Et on avance le chiffre de 200 victimes comme ça par an. Depuis le visa Balladur, il y a eu environ 5000 personnes comme ça, comme les gens qui sont autour de nous, qui ont essayé de prendre le Kwasa-Kwasa là, pour aller à Mayotte. Et puis il y a eu des accidents comme ça, et il y en aura cette nuit, il y en aura demain, il y en aura, et ainsi de suite.
On les a enterrés là-bas au bord de la plage.
Donc les corps vous ont été rapportés.
On les a retrouvés un beau matin sur la plage.
Échoués sur la plage. Est-ce que vous voudriez que Anjouan soit rattaché à la France, redevienne française?
C'est pourquoi on se déplace pour aller à Mayotte, parce qu'on veut que la France revienne ici.
Ici à Anjouan?
Oui, nous voulons que la France revienne ici.
Vous allez être colonisé?
Mieux vaut être recolonisé que de rester comme ça et ne rien avoir, sinon on finira voleur et ça c'est pas bon.
Alors voilà qui amène de l'eau au moulin des nostalgiques au temps des colonies qui sévissent par les temps qui courent dans l'Hexagone. Et c'est vrai qu'on rencontre à Anjouan, île des Comores, des Anjouanais qui rêvent du retour de la France. On les appelle les rattachistes. Et je sais pas si vous vous souvenez, en août 1997, on a été surpris de voir des images de ces habitants d'Anjouan qui demandaient alors à la fois leur séparation du reste des Comores, d'une part, et certains demandaient leur rattachement à la France, demandaient la recolonisation de leur île. Évidemment, la raison est simple, c'est qu'ils voient là-bas Mayotte, la prospère, et ils rêvent aussi de prospérité pour eux-mêmes. Alors ce mouvement, bon, aujourd'hui c'est un peu calmé, a perdu de sa vigueur, mais il existe bel et bien. On est à l'ombre de ce manguier, il fait très très chaud, et là il y a donc ces femmes, comme je disais, qui sont à la fontaine et qui nous entourent, bien sûr. À cause de notre charme, évidemment, mais aussi parce que c'est quand même une curiosité de voir des mzungu comme ça en plein après-midi.
Alors, quelles sont celles qui ont envie de partir?
Moi aussi. Là, c'est tout le monde qui veut partir.
On va faire le contraire. Qui est-ce qui a envie de rester ici?
C'est les grands-mères.
Les grands-mères.
Mais tous, on veut y aller. On veut aller manger les ailes de poulet, nous aussi. Quand nous, on veut de l'argent parce qu'on a envie de faire aussi nos plaisirs, nous.
C'est quoi le plaisir?
On veut aussi des belles maisons. Pourquoi pas des voitures et de la belle vie?
Mais est-ce que vous avez des amis, des filles de votre âge qui sont déjà parties là-bas?
Oui,
on en a beaucoup. Et qu'est-ce qui t'empêche toi de partir? Pourquoi tu pars pas alors? C'est l'argent quoi.
Il nous faut 100 à 150 euros.
Ah, lesquels sont en train d'économiser pour partir là en ce moment?
Il
n'y a personne. Et pourquoi?
Parce
qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent, on n'a pas de travail. Il n'y a aucun moyen d'avoir des euros. Ici au village, il n'y a pas. Mais comment tu fais pour t'acheter tes petites robes, tes petits colliers, les petits bonbons, les petits maquillages?
Pour
gagner tout ça, on est obligé d'aller prendre du sable, ramasser du sable.
Ah, vous vendez du sable?
Bon, il y a des camions qui viennent de loin, qui viennent acheter le sable ici.
Est-ce que vous pensez que ceux qui sont là-bas sont heureux?
Non, ils sont pas dans la joie. Parce que justement, vous, les Français, vous voulez les foutre dehors.
Et vous rêvez toutes de vous marier bientôt?
Mais oui.
Comment vous faites pour choisir votre mari?
Je peux voir un homme et l'aimer comme lui aussi peut me voir et m'aimer.
Ça commence comme ça. Comment vous allez au bal? Vous allez danser? Comment vous faites pour rencontrer les garçons?
Nous, on y va aussi danser.
Alors quand vous allez danser, vous vous maquillez comme elle? Oui. Alors ça, moi, je dois dire qu'elle a un très très beau maquillage sur le visage. C'est difficile, c'est comme un masque de pâte. Celui-là est jaune, j'ai jamais vu encore ce jaune-là. Sinon, c'est comme la jeune fille qui est là, avec un masque plus clair, comme ça. Comment on fait ce masque?
Ça, on le fait sur une pierre, un corail, avec un bois spécial.
Et alors, moi, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez vous marier?
Amy.
Tu
dois avoir de l'argent si tu veux me marier. Avoir de l'eau. C'est ce que je porte. Et ma famille doit faire ma maison. Il faut quand même qu'ils meublent aussi ma maison.
Donc il faut de l'argent pour se marier.
Ah oui, il faut que la femme ait de l'argent et l'homme aussi.
Et alors, une fois que vous serez mariés, vous voulez toutes des enfants? Combien tu en veux, toi?
Je veux deux.
Deux? Ça fait 10? Toi, t'en veux 10, elle en veut deux. Toi, t'en veux combien? Deux aussi. Deux, pas plus.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit et tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses doigts. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques et puis qui balbutie et qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire monsieur, chez ces gens-là on ne pense pas monsieur, on ne pense pas monsieur. Puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qu'a jamais vu un peigne, que méchant comme une peigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville. Et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto. J'aimerais bien avoir l'air, mais qu'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas, monsieur. On triche.
Pas très loin d'où on a rencontré ces femmes, et ben on aperçoit Mayotte, 70 km, 80 km à vol d'oiseau. À vol d'oiseau ou à vol de Kwassa Kwassa. Kwassa Kwassa, c'est ainsi qu'on a baptisé les bateaux, les barques, on peut dire des barques, oui, à bord desquels montent les candidats au passage, à la clandestinité. Kwassa Kwassa, c'est une danse de Kinshasa. Les Quinois sont les rois de la musique, on le sait bien depuis longtemps en Afrique. Et Kwassa Kwassa, c'est une danse très très gaie, et ça balance comme ça. Donc voilà, on a baptisé ainsi ces bateaux qui sont, c'est de l'humour noir, parce que souvent, on l'a dit déjà hier, et vous le savez, c'est des bateaux c'est un peu les bateaux de la mort. Quelqu'un me disait hier, un clandestin arrivé sans papier, arrivé à Mayotte, disait qu'il avait acheté la mort en payant son passage. On avance des chiffres depuis 90-95, environ 5000 personnes sont trouvées la mort au cours de cette traversée périlleuse. C'est un véritable cimetière marin, je le disais hier. Donc on part de ces côtes. On part de ces côtes, d'Anjouan. C'est une véritable activité. C'est une branche de l'économie. Hein. Et il y a des passeurs, évidemment. Eh oui, comme toujours, comme partout dans ces situations, si on crée un obstacle, eh bien, quand il y a une telle poussée, une telle pression pour des raisons évidentes de différentiel social, d'inégalité, les hommes finissent toujours par passer par-dessus, par-dessous, par où on voudra, mais ils finissent par passer. On l'a vu récemment en Afrique, évidemment, que Mayotte et les Comores ne font pas exception. À cette différence près, encore, je le souligne bien, c'est les liens historiques, culturels et familiaux qui existent entre les uns et les autres habitants des Comores. Alors, je parlais des passeurs, et ben voilà des passeurs. Qui sont ces passeurs? Qui sont ces affreux passeurs qui, évidemment, se font de l'argent avec ce désarroi? Et ben on en a rencontré deux, qui se sont alors confiés, et c'est même pas confiés, qui nous ont expliqué quelle était leur vie, leur situation, et combien tout ça coûte. On est à Anjouan, aux Comores. Alors là, raconte-moi un peu, Jimmy. Là, c'est par exemple, c'est une plage dont vous avez l'habitude de partir. Mais pour pouvoir sortir, là, il faut qu'il y ait une passe, parce que ça, c'est la barrière de corail, là. Hein?
On passe comme ça.
Ah, c'est là-bas
jusqu'à
la passe.
Là-bas, ouais. Là-bas, il y a
la passe.
Ouais.
On lissait tous les chemins ici.
T'en es à combien, toi, Jimmy?
Passage d'aller à Mayotte.
Ouais, d'aller à Mayotte.
Ah, il y a presque 6 ans que j'ai travaillé les boulots.
Donc tu sais plus combien tu as fait de voyage?
Ah ouais, je ne sais pas. Parce qu'il y a quelques fois, j'ai fait 2 fois une nuit, 3 fois une nuit.
3 fois de suite?
Ouais. Et je laisse là-bas, après je viens. Je prends encore des passagers.
Alors combien de temps on met pour aller là-bas?
2h30 ou 2h.
D'accord. Alors toi aussi, tu fais pareil?
Mais si, si. Moi, j'ai commencé ce travail depuis l'enlèvement du visa aux Comores.
En 95?
En 95. Mais tous mes voyages, j'ai fait mes voyages à Makele. Ça, c'est une zone isolée.
Uh-huh.
Donc, le gouvernement ne me voit pas. Parce que ça, c'est tout près de la côte de Mayotte. Je fais 1 heure de temps comme ça.
Il y a à qui ça appartient d'abord ces bateaux?
Non, ces bateaux appartiennent à nous. Nous avons pris sous forme d'une société à cause de la crise. Parce que l'État ne donne pas d'emploi à faire.
Il n'y a pas de boulot.
Pas d'emploi à faire. On est obligé de nous vendre nos champs, nos bœufs pour acheter le quoi ça, pour qu'on puisse vivre.
Alors toi, t'en as combien des bateaux?
J'ai commencé depuis 95. J'avais 5 bateaux, mais le premier sont pris à Mayotte, la deuxième est pris encore à Mayotte, le troisième et le quatrième sont tous pris à Mayotte. À ce moment, j'ai le cinquième.
Ah, ils t'en ont confisqué 4 déjà.
4 ouais. Déjà.
À chaque fois, tu perds un bateau.
Oui, oui. Ils sont confisqués parce que mes capitaines ne sont pas assez intelligents.
Capables.
Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas intelligents. De se faire cette
Parce que toi, tu ne l'as fait pas toi-même, la traversée, c'est des
Capitaines. Non. J'ai des employés.
Mais t'as combien d'employés?
Des pilotes chaque voyage.
Mais t'as combien de pilotes,
il y aura combien? 300 euros.
300 euros. Par voyage.
Un voyage, il revient à 300 euros. Chaque pilote, ça fait 600 euros.
600 euros à chaque voyage.
À chaque fois que les bateaux ont été pris,
confisqués.
Et alors les pilotes, qu'est-ce qu'ils sont devenus là? Ils ont été arrêtés.
Les pilotes seront enfermés, sont emprisonnés à Mayotte.
Ils sont emprisonnés. Tes 4 pilotes, ils sont emprisonnés à Mayotte.
À Mayotte, oui.
D'accord. Et les gens qui étaient à bord?
Ils ont emballés ici.
Emballés par ça, c'est quoi? C'est Mayotte qui les ramène.
Qui les ramène ici aux Comores.
Ah d'accord.
Moi, je travaille les moments des mauvais temps.
Que tu aimes travailler quand il y a mauvais temps?
Il y a mauvais temps parce que les flics là-bas, les sécurités, ne peuvent pas rester à la mer. C'est là que je risque. Je prends mes risques d'y aller. Mais le temps est comme ça, moi, je ne peux pas travailler.
Parce que c'est calme, là.
C'est calme. Après, la sécurité est beaucoup là-bas. Mais si le mauvais temps est dur, c'est là que j'ai profité de rentrer.
Alors, raconte-moi, combien ça coûte, hein, quoi ça, le bateau, combien il coûte?
4 000 euros.
4 000 euros, c'est là
c'est,
qu'on...
C'est 2 millions de francs comoriens.
4 000 euros le bateau.
Ouais.
Alors, sur le bateau, il y a deux moteurs.
Il y a deux moteurs.
Qui coûtent combien?
Et 6 000 euros.
6 000 euros.
3 000 et 3 000. À bord du bateau, tu mets combien de passagers?
18.
Parce que moi, on m'a dit jusqu'à 30.
Ah ouais, il y a quelqu'un. Parce que selon de l'agrandissement de la coque.
Selon la capacité de grandeur de la coque, on peut amener jusqu'à 30.
Jusqu'à 30, 35.
Alors, ça coûte combien?
Le quoi?
Ben pour les passagers, le passage. 150 euros.
150 euros, si les gens en joignent, ils payent 100 euros. S'ils viennent du Grand Comore, 150 jusqu'à 200, selon de la capacité des passagers.
Bon, quel est le nombre de passagers par mois?
Non, moi je n'arrive pas à faire compte parce qu'il y a chaque semaine, je dois faire 2 voyages, 3 voyages par semaine. Il y a quelques fois, j'ai fait une semaine, 5 voyages, selon des passagers, s'il arrive l'activité.
Et toi aussi, pareil?
Je fais tout les jours sauf le mardi.
En fait, vous êtes des petits chefs d'entreprise, quoi. Vous avez des petits, c'est des petites entreprises.
C'est pas entreprise, parce que ça, c'est une chose risque.
Risquant.
Parce qu'il y a quelques fois qu'on l'achète et du coq aujourd'hui.
Tu l'achètes aujourd'hui, tu le descends ici.
Ouais.
Et il va à Mayotte, le même jour, il va
rattraper.
Confisquer à Mayotte. Le même jour.
Le même jour. On sera obligé de chercher encore l'argent d'acheter notre coq.
Enfin, vous répondez à une situation complètement absurde, quoi. Hein?
Évidemment. Il n'y a pas de boussole, nous on file comme ça, c'est tout.
Et comment tu fais la nuit? Alors tu vas au pif comme ça, tu t'orientes?
Non, si tu fais 50 mètres,
50 mètres d'ici, déjà tu vois la lumière de Mayotte.
Ah, d'ici la nuit, tu vois la lumière
de Mayotte. Tu vois la plage d'Anjou, tu vois l'île de Mayotte. Le tombeau du soleil, on voit la lumière du Mayotte. Donc alors, qu'est-ce qu'il veut avec le boussole?
Le
GPS. Le GPS, c'est les yeux, c'est le GPS. C'est fini.
C'est tout.
Et vous êtes combien comme ça de passeurs?
Ah, beaucoup de monde maintenant.
Ah, il y a la concurrence.
Ah, maintenant il y a les concurrences, c'est ça que j'ai abandonné.
Tu as une idée de combien de passeurs ici à Anjouan?
Il y a un peu jusqu'à 10 à 20.
Ah ouais, environ.
Mais c'est toi le premier?
Avant, c'est moi
si,
le premier.
Si, c'était le premier.
C'était le chef.
Ah ouais.
Mais je suis le premier à commencer par rapport à lui. Mais lui, c'était un type vraiment très dynamique. Il m'a influencé.
Toi, c'était le quoi ça? Lui, c'était le moteur.
Des passagers aussi. Parce que tout le monde connaît
Jimmy.
Mais maintenant, moi, j'ai refusé de faire parce que j'étais en tôle. C'est ça que j'ai stoppé de faire ça, ces trucs.
Quand tu ne fais plus toi-même?
Ah, moi, je ne fais pas maintenant. Je refusais maintenant. J'étais en tôle, j'ai fait un mois et demi l'année passée.
De l'année passée, tu t'es fait un mois et demi de tôle?
Un mois et demi. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème à la mer. Tout le monde y connaît que Jimmy l'a fait bon jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je ne fais pas. À partir de l'année passée, j'ai refusé de faire. Parce que l'État, il m'a refusé. Il m'a dit, s'il me trouve encore une fois, il doit m'envoyer 3 ans en tôle. Donc, je ne peux pas, j'ai des enfants chez moi.
Tu as combien d'enfants?
10 enfants.
Ouh.
6 filles, 4 garçons. Avec location d'une maison, je ne travaille pas.
Mais vous avez réussi à mettre un peu, à faire un peu d'économie quand même, à mettre un peu d'argent.
Non, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent.
Trop de dépenses.
Ah oui, toujours la petite entreprise.
Mmh. Et il y a le service de gardiennage, il y a le carburant, il y a le pilote. Hein?
Et puis il y a des pots de vin quand même un petit peu. À...
Et il y a quelqu'un, il vient qu'il n'y a pas 10 sous, même un franc. Tu voulais les deux. Il a demandé de excuser. Moi, j'ai mis d'aller à Mayotte. Si je trouve l'argent là-bas, je peux t'envoyer.
Ah, tu fais crédit, tu veux dire?
Ouais, il fait du crédit.
Il fait du crédit.
Ouais. Beaucoup, beaucoup de gens ont fait du crédit.
Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des bakchiches à verser aux autorités ici?
Non. Ah, s'il y avait des bakchiches, je ne peux pas rentrer en tôle.
S'il y avait des bakchiches, tu n'irais pas en tôle.
Oh, ouais, ouais.
Donc si tu vas en tôle, ça prouve qu'il n'y a pas de bakchiches.
Il n'y a pas de bakchiches.
T'es sûr?
Oui,
c'est sûr. Bon, de toute façon, si c'était vrai, vous ne me le diriez pas. Hein.
Ah non, non. On ne s'est jamais vu. Tout est fou.
Et les bateaux reviennent comment, les coques, là? Ça revient à vide ou
vous... Ah, ils reviennent vide avec deux pilotes, c'est tout.
Moi, ce qu'on m'a dit, qu'on ramenait des marchandises.
Non. Ah bon, il y a du gangster, il fait, mais c'est pas nous.
Des gangsters qui font le truc.
Ah ouais. Parce que c'est du gangster, la mafia a toujours sa passe, hein. En mode entier, ouais.
Ah oui.
Donc, chacun son boulot, hein.
Ouais. En tout cas, ce que vous savez, c'est qu'il existe des gars qui ramènent de la marchandise. C'est pas vous, mais il y en a qui ramènent de la marchandise. Ils ramènent des télés, ils ramènent des...
Nous, on ne savait pas parce qu'on n'a jamais insisté ce truc, ouais.
T'as eu des accidents, toi?
Un accident. En quittant la plage, il y avait une grande vague. Uh-huh. Et puis il a renversé le bateau. Donc, j'avais eu 4 morts.
4 morts. C'était quand?
C'est longtemps. Septembre 2003.
Parce que généralement, c'est des gens qui ne savent pas nager.
Oui.
Tu sais nager, toi?
Qui, moi?
Oui.
Moi, je sais tout.
Tu sais tout, d'accord. Mais les gens ne savent pas nager.
C'est pas beaucoup qui le sait. Des trucs.
Ils ne savent pas.
Mais on n'a pas les choix. Si quelqu'un vient à même.
Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant de faire le bateau, là?
Qui, moi?
Ouais.
J'étais un enseignant.
Ah, je m'en doutais.
J'étais un enseignant. Donc, je suis devenu un grand chômeur.
De la vie.
De la vie. J'étais tourné à droite à gauche.
Un grand chômeur de la vie.
De la vie. Je ne fais rien.
Je n'arrive pas à voler. Je n'arrive pas à tuer quelqu'un, je n'arrive pas à voler, j'ai besoin d'avoir des sous, d'aider mes familles. C'est là que j'insiste de faire des kwasa-kwasa. C'est tout. Alors, maintenant, j'ai eu un petit boulot, j'abandonne des kwasa-kwasa. C'est tout.
Alors, dis donc, s'il y avait une suppression du visa baladure, c'est-à-dire que si les gens pouvaient, vos compatriotes, là, en Joanet, pouvaient circuler plus facilement, vous auriez plus de boulot.
S'il n'y a pas de visa là-bas, je croyais que les enjeunés ne restaient plus là-bas. Ils passent d'acheter des choses, ils passent voir sa famille, ils passent voir le boulot. S'il n'y a pas, ils doivent rester chez eux.
Ouais.
Mais à partir des visas, c'est là que les enjeunés restent là-bas. Parce que s'ils retournent, le problème de Kwasa-Kwasa, ils s'emmerdent. Parce qu'ils peuvent dépasser plusieurs fois là-bas.
Donc tant que quand la pauvreté s'augmente, et la clandestinité s'augmente aussi. Parce qu'on quitte ici à cause de la pauvreté. Donc, on était obligé de prendre risque d'aller à Mayotte pour chercher un emploi. Mais s'il y a des emplois ici aux Comores, un Comorien ou une Comorienne n'est jamais quitté ce pays pour aller à Mayotte. Parce que Mayotte, c'était une île vraiment... Des gens qui nous traitent, nous, les Comoriens, comme des animaux. Les Maoriens nous traitent, ici, les Comoriens, comme des animaux. Donc, on va à Mayotte parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas le choix. Donc, elle dit qu'il vaut mieux mourir et vivre dans une vie misérable. Vous me rentrez à Mayotte pour chercher si j'aurai un emploi. Nous ne ferons jamais rêve d'avoir un avion ou bien de quoi. Nous avons des rêves, avoir quelque chose à vivre, avoir quelque chose à manger, à habiller et à loger. Un point, un trait.
Moi, je ne savais pas. Ah oui, moi, je ne savais pas ça. C'est les gens qui s'est écrit, qui s'est politique, c'est là qu'ils doivent parler ça. Parce que ça, c'est pas pour moi. Je suis lettré à 100%, j'ai jamais mis mon pied à l'école depuis ma naissance. Mais j'ai eu de la chance à cause de mes amis, c'est là que je suis parlé.
Tu n'as jamais mis le pied à l'école?
L'école, jamais, interdit de ma vie. Je ne savais même pas comment on fait les écrits. Mais mes amis à 80%, ils sont tous intellectuels. Donc s'ils discutent, ils discutent en français, en anglais, c'est là que je sais un peu.
Alors lui, c'est un intellectuel.
Ah, mais il sait beaucoup. Il est fort que moi.
Alors, tu parles anglais aussi, pareil?
Un peu, small.
Small, just a little. Okay.
Yeah.
C'était un reportage de Daniel Mermet et Guy Vanctil, traduction Kamal Ali Yehouda. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Xavier Lévesque et Jean-Philippe Jeanne, réalisation Yann Chouquet et Coy Nguyen, assistante Charlotte Perry. Chef du répondeur, Christophe Humbert, et le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. Bon après-midi à toutes et à tous. Après le flash, vous retrouverez le carrefour de l'Odéon, France Inter. Il est 16h.